je vous parler des OGM et de l'alimentation. Donc, je vais d'abord vous définir ce que sont les OGM, puis je vous parlerai des différents OGM qui existent et de leur utilisation en recherche, en médecine, en agroalimentaire. Donc, on abordera les OGM qui sont disponibles au niveau de l'alimentation humaine. Je vous parlerai des risques environnementaux et sanitaires qui sont liés à ces OGM. Et puis, on abordera la question de la faim dans le monde et la question centrale qui occupe les esprits certainement, mais qui consiste à trancher dans l'utilisation possible des OGM pour soulager la faim dans le monde. D'accord ? Alors, que sont les OGM ? Ici, vous voyez, vous avez deux types de poissons zèbres, donc des poissons zèbres normaux, zèbres parce que vous voyez, ils ont une jolie bande latérale brillante. Et c'est la contrepartie transgénique, d'accord ? Donc ces animaux-là expriment un gène qui permet la biosynthèse d'une protéine fluorescente, rouge-orangé. Alors, un OGM, c'est quoi ? C'est un organisme vivant qui a été transformé génétiquement, c'est-à-dire qu'il a reçu un ou plusieurs gènes issus d'une autre espèce, ou même de la même espèce, mais légèrement modifiés. D'accord ? Alors, l'opération consistant justement à transformer un organisme génétiquement s'appelle la transgénèse, et un organisme ainsi modifié est appelé organisme transgénique. Je vais quand même vous donner quelques petits rudiments de génétique qui sont, j'imagine, pour vous quelques rappels. Ça ne vous l'a pas encore enseigné cette année. Il s'agit de comprendre à quoi servent des gènes. Un gène correspond à une protéine, en général, la plupart du temps, d'accord ? Et donc une relation, une correspondance assez stricte entre un gène et une protéine. Donc dans le noyau des cellules, le support de l'hérédité, support des gènes, c'est l'acide désoxyribonucléique, en abrégé ADN. Et l'ADN est constitué de quatre composants chimiques, des bases, désignées par leur abréviation AGC et T pour adénosine, guanosine, cytosine, thymidine. D'accord ? Et c'est la séquence, donc la composition à la queue leu de chacune de ces quatre bases, qui constitue le génome particulier de chaque espèce. D'accord ? Alors, lorsqu'on considère un gène, il y a deux régions très importantes pour un gène. Il y a la région dite codante, qui permet ultérieurement la biosynthèse de la protéine. Une région appelée promoteur, qui autorise l'activité du gène. D'accord ? Alors, plus précisément, par expression du gène, on appelle la transcription, c'est-à-dire la constitution d'un acide nucléique appelé ARN messager qui ne se trouve qu'être la copie de l'un des deux brins de la double hélice d'ADN. Cet ARN messager, contenant l'information génétique prélude indispensable à la biosynthèse de la protéine correspondante, est transporté hors du noyau dans le cytoplasme, et là, une machinerie appelée ribosome intracellulaire, va se déplacer sur l'ARN messager et synthétiser la protéine. Alors le grand secret, ce qu'on appelle le code génétique, c'est que à une suite de trois bases particulières correspond l'ajout par les ribosomes d'un acide aminé. D'accord ? Et l'enchaînement de plusieurs acides aminés va constituer une protéine. Les protéines ne sont constituées que par l'enchaînement d'acides aminés. Voilà. Donc à un gène correspond une protéine. Et donc à une transgène correspond une protéine transgénique. D'accord ? Voilà. Maintenant, je vais parler de l'utilisation des OGM. La première des utilisations concerne la recherche fondamentale. Là, les OGM sont déterminants. Donc, ils ont une très très grande importance. La connaissance humaine en matière de génétique, biochimie, biologie cellulaire, médecine également, a fait d'énormes progrès. La connaissance fait d'énormes progrès grâce aux OGM. Et donc là, je voulais simplement utiliser des travaux déjà publiés par des collègues, par l'équipe de Walter Gehring, qui a reçu le prix Nobel il y a quelques années, Je vais simplement illustrer une utilisation possible des OGM en sciences fondamentales. Donc il avait été chez la drosophile, hein, la petite mouche qui se déplace autour des fruits, il avait été noté une mutation particulière, la mutation ALS, une mutation qui se caractérise par l'absence d'yeux portés par les drosophiles. Et donc pour déterminer quelle était la fonction du gène qui fait défaut chez ces mutants sans yeux, l'équipe de Guéret a eu l'idée de surexprimer ce gène de partout dans le corps de l'organisme d'une drosophile. D'accord ? Et vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'en plus du grand yeux à facettes, vous avez un autre œil qui apparaît ici, vous voyez. Alors lorsqu'on voit l'animal de face, en plus donc des deux grands yeux à facettes, vous avez deux yeux surnuméraires portés par la tête, mais également un autre œil placé sous l'aile, un œil au niveau de l'antenne et également un œil au niveau de la partie supérieure des pattes. Ça veut dire que, vous voyez, la simple expression de ce gène dans d'autres tissus que la partie de la tête censée naturellement recevoir l'œil provoque l'apparition d'un œil. Ça veut dire que ce gène a un rôle clé. C'est ce qu'on appelle un gène maître dans l'ontogenèse, c'est-à-dire dans l'apparition et la formation de l'œil au cours de l'embryogenèse. Donc voilà un des exemples qui illustre la grande utilité des OGM en recherche fondamentale. Donc une grande utilité des OGM, c'est également en médecine thérapeutique. Il s'agit en fait de la confection de protéines essentielles et très utiles à médecine humaine. Donc pour ça, on utilise des organismes modifiés, notamment des bactéries, des levures, des cellules animales en culture, des cellules végétales en culture. Il a même été utilisé et sont toujours utilisés des animaux dans lesquels on fait produire dans le lait des femelles, donc des protéines d'intérêt médical. Et même, je peux faire produire des protéines d'intérêt à partir d'OGM, à partir de gènes, du transgène, dans le blanc d'œuf de poule. Il a également été utilisé des plantes, on appelait ça les plantes médicaments. La société française Médecine Thérapeutique, par exemple, avait utilisé un maïs pour produire une lipase. Une lipase dans le cadre du traitement des malades atteints de mucoviscidose. Bon, ce transgène, ce maïs transgénique a été abandonné à la suite de l'opposition virulente d'organisations écologistes, également de la Confédération paysanne, ainsi que l'action des faucheurs volontaires. D'accord. Alors, les plantes OGM posent un problème environnemental bien entendu, et je reviendrai dans quelques secondes sur les risques environnementaux possibles liés à l'utilisation, à la dissémination dans l'espace public d'OGM plantes. Mais vous notez qu'on peut produire donc des protéines d'intérêt médicales et thérapeutiques, et dans quantité d'autres organismes. Pour les bactéries, les levures et les cellules en culture, elles restent confinées dans des réacteurs, il n'y a aucun problème environnemental. Les animaux qui produisent des protéines médicales à intérêt médical dans leur lait sont confinés dans des étables, il n'y a aucun problème. Ce sont vraiment les plantes qui posent un problème. Alors, on peut être produits et sont autorisés à la mise sur le marché et à l'utilisation thérapeutique, l'hormone de croissance humaine, l'insuline, un facteur de coagulation sanguine, très utile pour les hémophiles, l'érythropoïétine, les interférons qui sont des protéines qui permettent d'activer le système immunitaire, et l'hormone de stimulation des follicules. Alors ça, c'est un progrès fantastique parce que, par exemple, dans le cadre de l'hormone de croissance humaine, elle a été prélevée avant la transgenèse, a été prélevée sur des cadavres, sur des structures cérébrales, prélevées sur des cadavres humains. Et donc, les personnes qui avaient un Creutzfeldt-Jakob, d'accord, c'est une maladie qui provoque une neurodégénérescence cérébrale, chez l'animal, et chez la vache en particulier, la maladie homologue s'appelle la maladie vache folle. Donc ça permet justement d'éviter telle maladie aux gens recevant leur hormone de croissance. Bon, le facteur de coagulation sanguine, par exemple, ça évite aux patients d'être contaminés par des virus présents dans le sang des donneurs. Donc il n'y a pas de doute, les OGM en matière médicale sont un progrès fantastique. Alors qu'en est-il de leur utilisation dans le secteur agroalimentaire? Donc vous avez quatre plantes essentiellement qui sont utilisées: soja, colza, maïs, coton. Et là, vous voyez, sur ce tableau, sont déclinées les surfaces occupées par les plantes, et notamment leurs caractéristiques génétiques modifiées. Donc vous voyez essentiellement qu'il y a deux grands types d'OGM, ceux résistants à un herbicide, le Roundup, et ceux qui, au contraire, produisent un insecticide. Donc, insecticide BT, du nom du micro-organisme dont le gène a été extrait. Cet organisme s'appelle Bacillus thuringiensis. L'abréviation donne BT. Et vous notez que sur un total, en 2007, de 114 millions d'hectares occupés par les OGM dans le monde, 111 l'étaient par ces deux types de plantes, donc résistant au Roundup ou produisant d'insecticides BT. D'accord ? Vous voyez, il représente 111 millions sur 114. Et plus précisément encore, 91 millions d'hectares sur les 114 occupés l'étaient par des plantes résistantes au Roundup. Alors le Roundup, c'est un herbicide qui est commercialisé par la société multinationale Monsanto. Celle-là même, justement, qui propose des OGM. D'accord ? Donc elle contrôle, cette société, à la fois le marché des semences OGM et de l'herbicide qui fonctionne avec la plante. Vous voyez, vous devez retenir ça, 91 millions sur 114. Quand on parle d'OGM, avant tout, ce sont les OGM résistants au Roundup et en moindre partie ceux qui produisent l'insecticide BT. Alors, quels sont les risques environnementaux de ces plantes OGM? Tout d'abord, l'apparition de résistance. Notamment, ça a été montré, peuvent apparaître des insectes qui résistent à la toxine BT. D'accord ? Donc ça pose problème, parce que dès lors que les insectes résistent, eh bien, à court terme, le caractère OGM ne sert plus à rien. Il faut en revenir alors à nouveau aux insecticides classiques et chimiques. En ce qui concerne le Roundup, là aussi, la résistance à cet herbicide a pu être démontrée sur des insectes ciblés, ce qui conduit, bien entendu, malheureusement, à l'augmentation de l'utilisation de l'herbicide. Un autre problème est la rémanence de la toxine dans les sols. Elle est exsudée à partir des racines enfouies sous terre et elle peut rester très longtemps dans les sols. Donc, il a pu être montré qu'elle pouvait résider plus de 200 jours dans les sols, donc bien après que la récolte a été effectuée. Et donc, elle peut tuer des organismes, des insectes utiles, non cibles. Et précisément, à propos de l'impact sur les organismes non cibles, des OGM, exemple des coccinelles se repaissant de pucerons, est très révélateur. Donc une pomme de terre a été mise au point, une pomme de terre qui exprime une protéine, la protéine de la plante Galanthus nivalis, il s'agit d'une anémone. Et cette protéine permet aux pommes de terre d'être moins sujettes à l'infection par les pucerons. Donc lorsque on fait consommer aux coccinelles les pucerons qui ont vécu sur cette pomme de terre, eh bien les coccinelles pondent 38% de l'embrun. Et leur longévité est diminuée par un facteur 2. D'accord ? Elles vivent deux fois moins longtemps. Enfin, les risques environnementaux concernent bien entendu ce qu'on appelle la pollution génétique, c'est-à-dire la dissémination du pollen transgénique. Donc, dissémination qui a été montrée à partir du transport par l'air ou par les insectes. Il y a eu donc des cas démontrés de croisement avec des plantes voisines, du colza Brassica napus, notamment avec Brassica rapa, et la moutarde sauvage. Donc il est clair que la coexistence de soja ou de maïs normaux avec des soja ou maïs OGM, très très difficile. Sachant qu'en fait, le pollen peut être transporté sur des dizaines de kilomètres, il faudrait imaginer des distances séparant des cultures normales d'OGM de plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui n'est pas le cas, et loin de là. Enfin, il y a un cas célèbre de pollution génétique, c'est celle du maïs au Mexique. Alors ça, c'est particulièrement dramatique parce que le Mexique est dépositaire de la biodiversité du maïs. Le maïs est originaire de la région andine, donc Pérou et Mexique. Au Mexique, plusieurs dizaines d'espèces différentes, de variétés différentes de maïs sont connues. Donc la pollution génétique avec un plan OGM est particulièrement catastrophique. Alors c'est Ignacio Chapela qui était en 2001 professeur à l'université de Berkeley qui l'a démontré. Et aussitôt il a été vilipendé par une campagne orchestrée et diffusée sur Internet. Il a pu être démontré que en fait, cette campagne était réalisée par des employés de Monsanto. D'accord ? Donc Ignacio Chapela a été radié à l'université de Berkeley. Il a été réintégré il y a 2 ans, lorsqu'il a enfin été démontré que ses observations étaient tout à fait vérifiées et justes. Alors, quels sont les animaux transgéniques à faire alimentaire? Quels sont les animaux qui un jour pourraient tomber dans votre assiette? Donc, d'abord, des poissons. Des poissons géants, parce qu'ils expriment un transgène. Ce transgène permet la synthèse dans leur tissu d'une hormone de croissance de poissons. Donc ces poissons deviennent très gros et plus rapidement. D'accord ? Leur croissance est très rapide et deviennent vraiment monstrueux et énormes. La même chose a été réalisée sur des porcs. D'accord ? Alors, bien entendu, l'intérêt pour les éleveurs, c'est qu'ils obtiennent des animaux, poissons ou porcs, qui sont commerciables beaucoup plus rapidement, puisqu'ils obtiennent plus rapidement la taille requise pour la commercialisation. Également, dernièrement, des porcs transgéniques de dernière génération qui expriment, par exemple, une chair plus riche en acide oméga-3, ou résistant aux maladies. Alors, quels sont les risques sanitaires associés aux OGM? Bien, par exemple, il a été montré par Emmanuel Amalatesta à l'université d'Urbino, la toxicité d'un soja résistant au roundup chez des souris nourries avec ce transgène, pardon, ce soja transgénique. Donc il a été démontré une toxicité au niveau des testicules, du foie et également du pancréas de ces souris. D'accord ? Un autre des problèmes associés aux OGM, c'est la présence d'un gène de résistance. Un gène de résistance aux antibiotiques qui est utilisé en tant que marqueur au moment de la confection de l'OGM. Donc en général, chez les plantes, ce qui est réalisé, c'est que l'on bombarde un fragment de tissu ou un amas de cellules végétales, on les bombarde avec des microparticules enrobées de l'ADN transgénique. D'accord ? Donc le transgène est délivré au hasard de la traversée de la microparticule à travers le tissu végétal. D'accord ? Donc un des problèmes de la transgénèse, c'est bien ça, c'est-à-dire que le transgène est délivré au hasard dans les chromosomes de la plante. Pour un animal, en général, est procédée une micro-injection de l'ADN sur un zygote, c'est-à-dire sur un œuf fraîchement fécondé. D'accord ? Donc là aussi, le transgène se met n'importe où dans les chromosomes. Et vous verrez tout à l'heure que ça peut générer des problèmes assez importants. Il y a également des risques d'allergie non négligeables. Ça a d'ailleurs été démontré dans le cas d'un soja exprimant donc une albumine de noix du Brésil. Alors bien entendu, ce soja a été retiré du marché lorsqu'on s'est rendu compte que des patients allergiques à la noix du Brésil eh bien, pouvaient être sensibles à ce nouveau soja. Toxicité d'une pomme intertransgénique qui a également été démontrée par Arpad Pustai en 1999. Celle-là même qui, même pomme de terre transgénique, qui est toxique vis-à-vis des coccinelles, qui diminue la longévité des coccinelles et qui diminue leur pouvoir reproducteur. Eh bien, la même pomme de terre s'est révélée être toxique, notamment au niveau de l'intestin de rat nourri avec cette pomme de terre transgénique. Qu'est-il arrivé à Arpad Pustai? Eh bien, il a été licencié. Il a perdu son emploi de chercheur. Alors, comment expliquer les résultats d'Arpad Pustai? Parce que la protéine transgénique en tant que telle n'est pas toxique. Et ça, il l'avait vérifié. Il se trouve que la protéine transgénique est une lectine. Lorsqu'il ajoute la lectine, la protéine en tant que telle, dans l'alimentation, dans le régime des animaux, ne démontrent plutôt, n'exhibent aucune manifestation toxicologique. Ce n'est donc pas le gène ou le produit du gène transgénique qui est toxique, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que cela peut être? Donc les généticiens expliquent par ce qu'on appelle un effet de positionnement. Le transgène, donc je l'ai dit tout à l'heure, s'immisce au hasard à un endroit donné du génome, au niveau d'un chromosome. Et ceci n'est pas du tout maîtrisé. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que le transgène soit inséré à un site, à un locus chromosomique, proche d'un gène qui normalement est dormant dans le tissu de la plante, comestible. Bon, je vais prendre un exemple. Dans la tomate, par exemple, les feuilles ou les tiges sont toxiques. Il y a des composés toxiques. En revanche, dans le fruit, dans la tomate, même dans ce que l'on mange, ces produits toxiques ne sont pas présents parce que les gènes qui conduisent à leur biosynthèse ne sont pas actifs, ils ne sont pas exprimés. Le promoteur qui contrôle ces gènes n'est pas activé dans le fruit. D'accord ? Mais imaginez qu'un transgène vienne s'insérer à proximité de ces gènes et vienne activer les promoteurs de ces gènes, alors le fruit devient toxique. D'accord ? Le maïs transgénique BT-1863 a été démontré comme étant toxique par l'équipe de générique céraline au cryogène de Caen. Alors, il y a une histoire qui est associée, une histoire importante associée à ce maïs transgénique, parce que préalablement, il avait été autorisé en France par la commission de génie biomoléculaire, d'accord ? Et la commission européenne l'avait accepté, sa mise sur le marché et sa plantation en Europe. Donc les associations écologistes ont lutté, porté plainte auprès de la Cour européenne de justice de La Haye et ont obtenu que les données de la multinationale Monsanto soient rendues publiques. D'accord ? Parce que la commission de génie biomoléculaire en France avait tranché, avait accepté cet OGM sur la seule base des données toxicologiques fournies par Monsanto. Il n'y a eu absolument aucune étude indépendante toxicologique. Et donc, sur la base des données obtenues par les toxicologues de Monsanto, Générique Serralini et son équipe ont conclu à la toxicité hépatique et rénale de cet organisme, de ce maïs transgénique. Enfin, il a été démontré que le Roundup était toxique sur plusieurs modèles cellulaires. Alors le problème des plantes qui résistent au Roundup, c'est que le Roundup, du fait même que la plante résiste au Roundup, eh bien, le Roundup finit par se retrouver concentré dans les tissus et dans les graines de la plante. D'accord ? Donc les humains ou les animaux qui consomment le maïs ou le soja, eh bien, vont consommer du Roundup. Il se trouve que le Roundup est toxique. Sa toxicité a été démontrée sur des cellules humaines dans la culture. Il a même été démontré qu'une enzyme, l'aromatase, une enzyme qui permet la biosynthèse de certaines hormones, hormones sexuelles, était inhibée par le Roundup. Alors, l'un des arguments des zélotes, des OGM, donc des partisans des OGM, est de dire que la technologie est parfaitement maîtrisée. Alors, rien n'est plus faux. D'accord ? Il y a une prédictibilité totale des conséquences de la transgénie. Donc, je vais vous donner deux exemples. Le premier, concernant des saumons transformés par l'hormone de croissance, ou plutôt donc, par le gène permettant la biosynthèse de l'hormone de croissance. Vous voyez ici, vous avez des saumons de l'Atlantique, l'un normal et l'autre transgénique. Ils ont le même âge, ils ont 18 mois. Vous voyez que le transgénique est nettement plus gros, effectivement. Alors, étant plus gros, on imaginerait volontiers qu'il fût beaucoup plus résistant et solide aux aléas de l'existence. Eh bien, il se trouve que curieusement, le poisson transgénique nage beaucoup moins vite. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des poissons de même taille, bien entendu, la vélocité de nage dépend de la taille des individus. Donc lorsqu'on prend des poissons normaux et transgéniques de même taille, de même longueur, on se rend compte que l'animal transgénique, qui est pourtant plus jeune, nage beaucoup moins vite. Donc ça veut dire qu'en génétique, on ne gagne pas sur tous les tableaux. Ce qu'on gagne en poids, on le perd en vélocité, finalement. Chez ces poissons transgéniques, la mortalité par prédation est augmentée par un facteur 6. Alors, c'est pas parce qu'ils nagent moins vite, c'est parce que leur comportement est modifié. Ils sont beaucoup plus téméraires. Les poissons, les saumons normaux se méfient des prédateurs et évitent les prédateurs. Tandis que les transgéniques n'ont cure de la présence de prédateurs et se jettent voracement sur la nourriture. D'accord ? Leur comportement est modifié. Chez le saumon du Pacifique, alors là, l'expression, la surexpression de l'hormone de croissance provoque des déformations du poisson. Non seulement il est plus gros, d'accord ? Il croit hypothétiquement plus gros, mais sa tête est totalement déformée. Il a une tête monstrueuse. Et enfin, chez le saumon d'Atlantique, il a été montré que la transgénèse s'accompagne d'événements génétiques totalement inattendus et non désirés. Aussi d'insertion sur la variété de saumon transgénique, il a été montré en fait, 5 gènes placés à la queue bleue, et aussi d'insertion, une partie du chromosome avait disparu. Donc en fait, les biotechniciens ne maîtrisent absolument pas ce qui se passe au moment de la confection. Tout se fait au hasard. Un autre cas, cette fois-ci, sur une plante, l'arabette des dames. L'arabette des dames, cette petite plante-là, l'arabette des dames transformée par une enzyme qui synthétise les phytokératines. Alors, les phytokératines, qu'est-ce que c'est ? Ça se voit très mal, c'est dommage. Donc ce sont des composés chimiques synthétisés par les plantes et qui permettent la résistance des plantes aux métaux lourds présents dans le sol. En fait, elles séquestrent, elles capturent des métaux, ici les atomes métalliques sont en rouge, ils sont séquestrés et capturés par les phytokératines. Et donc soustraits aux cellules, la potentialité toxique des métaux lourds. Donc l'idée, c'est d'utiliser, de faire surexprimer un gène permettant la biosynthèse de ces phytokératines dans une plante, dans le cadre de ce qu'on appelle le développement durable, et plus précisément encore la phytoremédiation. L'idée, c'est de dépolluer des sols contaminés par des métaux lourds avec des plantes qui vont être résistantes aux métaux lourds parce qu'exprimant les phytokératines. Alors, il se trouve effectivement qu'un mutant de l'arabette des dames incapable de synthétiser des phytokératines devient hypersensible au cadmium. D'accord ? Donc à rebours, si on surexprime l'enzyme permettant la biosynthèse des phytokératines doit s'attendre à une résistance accrue. Et à une prise de métaux dans le sol accrue. Alors, voici les résultats obtenus. Vous voyez, lorsqu'on compare des plantes normales et transgéniques et qu'on regarde la longueur des racines en tant que marqueur de la santé de la plante, on observe dans ce milieu dépourvu de cadmium, zéro cadmium, on n'observe aucune différence quant à la longueur des racines. Maintenant, c'est dans un milieu où on met 75 micromoles par litre de cadmium, un métal très fortement toxique, effectivement, vous voyez qu'il y a une nette diminution de la croissance des racines. Puisque là, les racines vont jusque-là, donc ici, elles croissent 2 à 3 cm de moins. Qu'en est-il avec la plante transgénique? Eh bien, contre toute atteinte, au lieu de résister beaucoup plus fortement au métal, vous voyez qu'elle résiste moins. Donc, la surproduction de transgène, au lieu de conférer une protection accrue à la plante, au métal toxique, eh bien, exacerbe la toxicité. Donc, vous voyez qu'il est en fait impossible de prédire a priori l'effet et les conséquences de la transgenèse. Alors, un autre argument des tenants des OGM, c'est de nous dire une plante transgénique, donc grain de maïs transgénique, est en fait équivalent en substance, c'est-à-dire chimiquement équivalent à un grain non transgénique. D'accord ? Si on fait l'analyse chimique du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, du phosphore, d'un grain transgénique, on va trouver la même chose que dans un grain non transgénique. Donc ils sont équivalents. Pas de problème. Oui, mais alors si on utilise ce même raisonnement, il n'y a aucun problème avec le sang contaminé par le virus du sida. D'accord ? Si on fait la composition, si on analyse la composition chimique, on va trouver exactement la même quantité de lipides, de glucides, de carbone ou de calcium dans nos sangs contaminés. Même chose pour le lait contaminé à la mélamine, dont vous avez entendu parler récemment. D'accord ? La mélamine est une molécule très riche en azote. Si on détermine la composition en azote du lait contaminé du lait normal, on ne trouve aucune différence. D'accord ? Donc ce concept est fallacieux. Alors qu'en est-il plus précisément si on prend des saumons transgéniques ? Donc une analyse nutritionnelle a été réalisée sur un saumon de l'Atlantique rendu transgénique par l'expression du gène de l'hormone de croissance du saumon chinook. Et vous voyez que le poisson normal contient 9% de lipides, alors que le transgénique uniquement 5%. Vous avez une très forte diminution de la teneur en lipides. Il se trouve que le saumon est une source très riche de lipides insaturés, de lipides oméga-3, donc bénéfique pour la santé. Et vous voyez que le poisson transgénique contient plus d'eau, 5% d'eau en plus, et moins de minéraux, et notamment 64% de calcium en moins et 25% de phosphore en moins, ce qui signifie que son squelette est fragilisé. Vous voyez qu'ils sont différents. La même chose a été démontré chez la carpe transgénique, carpe exprimant un transgène d'hormone de croissance, moins riche en lipides également. Il a été démontré sur un poisson du Pacifique, Echo, donc à l'aveugle, des tests à l'aveugle, il a été démontré qu'en fait les individus avaient tendance à préférer très largement le poisson non transgénique. La saveur et l'odeur du poisson normal est bien plus agréable. Les qualités organoleptiques sont favorables aux poissons normales. Donc, le consommateur fait la différence. Il n'y a pas de doute. Chez les plantes aussi, une tomate transformée par un gène bactériel s'est retrouvée moins riche en composés antioxydants et en naringénine. Alors, la naringénine, elle a des qualités anticancéreuses et antioxydantes, c'est intéressant. Donc il y a une différence en substance. Un argument abondamment utilisé également par les tenants des OGM est de nous dire, ces OGM étaient toxiques, on le saurait. Notamment aux États-Unis, où tout le monde la consomme sans le savoir, personne n'en meurt. Donc, c'est aussi grossier que de dire le tabac n'est pas toxique, parce que si vous fumez un paquet de clopes, de cigarettes, vous n'en mourrez pas. D'accord ? C'est très bien que le tabac consommé à bonne dose pendant 10 à 30 ans finit par provoquer des cancers chez les individus. La technologie OGM, les gens aux États-Unis consomment des OGM depuis une dizaine d'années. On verra ce qu'il en est dans le même temps. Quant à l'incidence et à la prévalence accrue de cancer du côlon ou du foie. Mais en fait, il a été montré une toxicité d'OGM présente dans l'alimentation. Il s'agit de la tragédie du tryptophane Showa-Denko. Donc, avant d'utiliser une bactérie transgénique, Showa-Denko produisait du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui est donné dans des gélules nutritionnelles avec d'autres acides aminés et des vitamines. D'accord. Avant l'utilisation d'une bactérie transgénique, ce que faisait Showa-Denko, c'est qu'elle utilisait la fermentation classique de la bactérie. Et il n'y avait eu aucun problème et aucun accident. Dès que Showa-Denko est passé à l'utilisation d'une bactérie transgénique qui contient 4 gènes, il y a eu 5 000 personnes hospitalisées aux États-Unis, 37 sont mortes. Et environ 1 500 ont été définitivement handicapés. D'accord ? Donc, bien entendu, ce n'est pas le tryptophane en tant que tel qui était toxique. La toxicité provenait d'un sous-produit du tryptophane produit par la seule bactérie transgénique. Donc, encore une fois, on ne maîtrise pas du tout ce qui se passe. On perturbe le métabolisme de l'organisme transgénique. Et vous voyez, l'organisme transgénique peut produire des composés potentiellement toxiques. La même chose s'est déroulée avec une levure de bière qui a été transformée par des gènes permettant des capacités de fermentation accrues. Eh bien, cette levure transformée produisait du méthylglyoxane qui est un agent mutagène. Donc ils se sont rendus compte avant de l'utiliser pour la confection de bière et de saké, parce que justement la quantité produite était telle qu'elle devenait toxique pour la levure. Alors je donnerai maintenant au chapitre concernant la fermentation, mais avant de répondre à la question est-ce que les OGM peuvent soulager la fermentation, tout d'abord je voulais rappeler des données. Donc rendu public par l'Organisation des États-Unis pour l'alimentation. En 2001-2003, il y avait, vous voyez, 854 millions de personnes dans le monde souffrant de la faim. D'accord ? Vous notez quelque chose d'important, l'Inde 212 millions, la Chine 150. Donc à eux seuls, ces pays représentent 40%, environ 40% des personnes souffrant de la faim dans le monde. Donc c'est important parce que vous verrez tout à l'heure que ces pays utilisent abondamment les OGM. Puis, donc, cette émanation des Nations Unies a publié des chiffres terribles. Toutes les 5 secondes, un enfant de 10 ans meurt de faim dans le monde. D'accord ? Le manque de nourriture tue 25 000 personnes par jour, ce qui représente 9 millions par an. Alors, quelles sont les causes de la faim dans le monde ? L'Union européenne vient de dire que la faim dans le monde a été due à l'augmentation de la demande en viande et en lait, provoquée par la consommation accrue en Chine et en Inde. D'accord ? Et d'autre part, l'Union européenne invoque des conditions climatiques désastreuses. En fait, les experts s'accordent, très nombreux experts s'accordent pour dire que la faim n'est pas due au climat, ni aux catastrophes naturelles, et encore moins à l'absence de nourriture, mais à la pauvreté. En fait, les 3/4 des gens qui souffrent de la faim dans le monde sont des paysans. D'accord ? Ils sont des paysans. Ils n'arrivent plus à nourrir leur famille. les guerres et les politiques discriminantes à l'égard des minorités, par exemple au Darfour en ce moment, ou au Nord Kivu, au Congo en ce moment. La spéculation boursière sur les produits agricoles. Vous avez tous entendu parler de la crise des prix hypothécaires aussi, de limiter leur stock de céréales. Leur demande par exemple d'ouvrir un marché à la concurrence internationale, notamment aux produits subventionnés par les États-Unis, donc une concurrence terriblement déloyale. Et dernièrement, le subventionnement par les gouvernements occidentaux de ce qu'on appelle les agrocarburants. Alors, les agrocarburants sont vus comme permettant, dans le cadre du développement durable, une source d'énergie dite verte ou écologique. Donc en réalité, même si l'Union européenne désire, vous voyez, le but d'ici 2020, c'est que 10% des carburants soient d'origine agricole. En fait, l'ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, John Ziegler, a déclaré qu'il s'agissait d'un véritable crime contre l'humanité d'utiliser, et je partage son opinion, d'utiliser du grain céréalier pour produire donc du carburant. Et oui, récemment, la presse s'est fait l'écho de la Banque mondiale qui vient de dénoncer l'utilisation des biocarburants. Et pour la Banque mondiale, plutôt pour ses experts, les biocarburants sont responsables de 75% de la hausse des tarifs alimentaires. Alors les OGM, représentent-ils une solution contre la faim dans le monde? Eh bien, ce qui concerne par exemple le soja transgénique résistant au Roundup, donc vous vous rappelez, les céréales transgéniques résistantes au Roundup représentent plus de 90 millions sur les 114 millions d'hectares occupés par les OGM dans le monde. Mais il était montré par une étude d'une agronome française, Sylvie Bonny, que bon, d'une part, le soja transgénique ne dégage pas pour l'agriculteur de bénéfices supérieurs au soja normal, mais qu'en outre, son utilisation conduit à une utilisation accrue de Roundup. Pourquoi? Parce que voilà, la principale raison, c'est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'acquisition de la résistance au Roundup. Une autre étude a montré que les rendements du soja transgénique étaient de 10% inférieurs à son équivalent naturel lorsque le sol était carencé à manganèse. Alors les États-Unis, persistent, et appellent à l'extension de l'utilisation des OGM pour lutter contre la faim dans le monde. Et d'ailleurs, les surfaces ont augmenté de 12% entre 2006 et 2007, et on est même passé de 65 millions à 114 millions d'hectares en l'espace de 4 ans seulement. Alors, si effectivement les OGM soulagent la faim dans le monde, en 4 ans, le nombre d'individus souffrant de la faim devrait avoir diminué, n'est-ce pas? Bien, les Nations Unies prévoient 77 millions d'affamés de plus en un an. D'accord? Entre 2008 et 2009. Et le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, Olivier de Schutter, qui vient de remplacer Jean Ziegler, lui prévoit qu'en 2009, il y aura plus d'un milliard de personnes qui souffriront de la faim. Alors, si on analyse maintenant la situation particulière de la Chine et de l'Inde, vous rappelez, ces deux pays représentent 40% des personnes sous-alimentées dans le monde. Regardez ce qui s'est passé en Chine. En 2 ans, les surfaces occupées par les OGM ont augmenté de 500 000 hectares et en Inde de presque 5 millions d'hectares. Pourtant, le nombre de personnes frappées par la faim n'a pas diminué dans ces pays. Mais alors, me direz-vous, c'est parce que, précisément, il n'y a pas encore suffisamment d'espace occupé par les OGM, bien sûr. Mais alors, dans ce cas, si la nourriture fait à ce point de défaut dans ces pays, pourquoi la Chine a-t-elle exporté 5 millions de tonnes de maïs, 3 de blé et 1 million de tonnes de riz? en 2007. Et pourquoi l'Inde a-t-elle continué à exporter du riz ces dernières années? Vous voyez bien qu'il n'y a aucune relation entre la faim qui frappe les populations et l'absence de nourriture. Il y a suffisamment de nourriture dans ces pays, puisque ces pays l'exportent, la nourriture. Alors expliquez-moi comment un paysan pauvre, qui n'est pas capable, qui a du mal à nourrir sa famille, pourrait s'acheter des semences OGM. Parce que la particularité du contrat qui lie, du contrat léonin qui lie Monsanto ou Syngenta avec les agriculteurs qui optent pour les céréales transgéniques, c'est que les semences doivent être achetées chaque année. D'accord ? L'agriculteur est dépourvu de la capacité ancestrale qui existait depuis le néolithique de conserver 10 ou 20% de sa récolte pour semer la récolte suivante. C'est interdit. Il faut racheter 100% de la semence. Avec quel argent? Et le Roundup, qui marche avec l'OGM, on l'achète avec quel argent? Parce que déjà, on ne peut pas nourrir sa famille. Alors, y a-t-il une, pour terminer, y a-t-il une alternative aux OGM pour nourrir la humanité? Et que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la nourriture estime que 4,4 milliards d'hectares dans le monde pourraient être cultivés, alors qu'actuellement 1,5 sont occupés. Donc il y a encore de la marge. Et donc cette émanation des Nations Unies estime que la Terre pourrait encore nourrir jusqu'à 11 à 12 millions de personnes, presque le double de ce que nous sommes actuellement. Alors, en alternative aux OGM, bon, ça se voit mal, c'est dommage, mais là, il y a diverses variétés de pois, et ici de maïs, et là de semences de soja, qui sont toutes très différentes des unes des autres. L'idée, c'est d'exploiter la biodiversité. La même organisation des Nations Unies estime qu'il n'y a que 7000 variétés sur 250 000 possibles qui sont utilisées. Et le problème des OGM, c'est qu'un OGM, c'est une seule variété. C'est une variété qui a été mise au point dans des centres de recherche agronomique occidentaux, en Europe ou aux États-Unis, et qui ne marche que sous des climats et des conditions météorologiques européennes ou occidentales, avec des sols occidentaux. D'accord ? Et bien entendu, aux États-Unis ou en Europe, il n'y a pas de mousson, il n'y a pas d'aridité extrême ou de pluviométrie extrême. On peut les connaître en Asie ou en Afrique tropicale. Quoi. Donc ce qu'il faut, c'est exploiter la biodiversité. C'est faire ce que les agriculteurs ont toujours fait depuis le néolithique, c'est sélectionner, croiser, sélectionner les caractères désirés. D'accord ? Également, il faut justement cesser cette agriculture intensive, d'immenses superficies, complanter d'une seule espèce, d'une seule variété, avec une utilisation abusive de pesticides, d'engrais qui finissent par stériliser les sols. Donc, l'idée, c'est de revenir à des polycultures vivrières. Et absolument aberrant, par exemple, au Burkina Faso ou au Mali, on demande, le FMI, Fonds monétaire international, demande aux agriculteurs d'abandonner les cultures vivrières de mil et de sorgho pour planter du coton transgénique. C'est totalement absurde. Dès que les cours du coton s'effondrent, c'est la famine qui sévit. D'accord ? Polyculture vivrière, donc polyculture, ça veut dire de petites superficies avec différentes couleurs. Et même dans une même unité, dans ce même champ, plusieurs espèces. Donc des modèles agronomiques ont été rendus publics. Hein, cette idée-là, ce n'est pas une utopie. Bien, j'en ai terminé et je vous remercie. J'attends maintenant vos questions.
Alors, pour vos questions, il y a un micro. Donc, ça peut être une demande de clarification sur tel ou tel point, ou bien des questions par rapport à ce qui a pu être évoqué. Donc, vous avez vu que M. Bourdillon est entré dans le sujet par la science. Donc, qu'on était vraiment à SVT, et que peu à peu, donc, on a touché à ce thème de géographie, et notamment la dernière partie autour de la fin de la Hollande. Alors si vous avez des questions, c'est le moment. On va y aller ici.